Ce métier est très riche et très divers et a beaucoup d'aspects différents qu'on n'envisage pas. Ce n'est pas que habiller des gens. Moi, tout de suite, je suis en train de faire un spectacle qui est en solo et qui part de mon expérience. Mais l'envie de ces interviews, c'est aussi de vous rencontrer, de vous donner cet endroit pour vous exprimer, puis pour que moi aussi, je me reconnaisse peut-être un peu et que je puisse faire des propositions assez fidèles à ce qu'on est toutes.
La Servante, solo pour une habilleuse, le podcast. Dans ce nouvel épisode, Carole a accueilli Rosen dans son jardin. Habilleuse et costumière, Rosen raconte son parcours, de ses études de scénographie en Russie à son métier aujourd'hui. Un échange simple et intime, à l'ombre des arbres, où se dessine un chemin singulier.
Là, présentement, je suis habilleuse. Après, j'ai plusieurs métiers. Je suis scénographe de formation, costumière, un peu accessoiriste et habilleuse aussi. À la base, je suis scéno, moi. J'ai fait des études de scénographie en Russie. Je suis partie en Russie après le bac. Parce que mes parents travaillaient avec un metteur en scène russe qui a fait cette école-là. L'école nationale de théâtre de la Fédération de Russie. Et comme je ne savais pas trop quoi faire, moi, après le bac, j'étais un peu paumée, et que je faisais les Beaux-Arts à Dijon, j'ai passé le concours, et je l'ai eu, et je suis allée là-bas.
Ok.
Voilà. Et je parlais russe, de par ma grand-mère, et j'ai fait russe aussi à Dijon, parce qu'il y a un cursus pour faire du russe première langue, donc j'ai pu bénéficier de ça. Et après, après ma formation en Russie, je suis revenue en France, et j'ai travaillé du coup avec ce même metteur en scène russe qui travaille avec mes parents, qui m'a embauchée en tant que costumière, scénographe. Et comme j'avais fait la création des costumes, le spectacle partait en tournée, et du coup j'ai suivi en faisant l'habillage. Parce que je voulais pas laisser le spectacle comme ça. Et la spécificité de ce spectacle-là, c'est qu'il y avait 3 comédiens, mais au moins 40 costumes, quoi. Donc il y avait des changements sans cesse. Et comme j'avais créé les costumes, il n'y avait que moi qui pouvais le faire. Enfin, c'était plus simple que je suive ce spectacle-là. Et c'était une création qui s'est faite à la MC 93 à Bobigny. Et à cette occasion, j'ai fait la création avec une dame géniale, qui est décédée maintenant, mais je l'appelle ma maîtresse, enfin ma maman d'habillage, quoi, qui m'a appris énormément de choses, qui s'appelait Elisabeth Honoré Bertelin, et qui m'a appris vraiment les grosses bases de ce métier-là, quoi. Et on a fait la créa costume à deux, vraiment, pendant un mois, toutes les deux, quoi. Donc c'était un apprentissage énorme, quoi.
J'ai l'impression que dans le théâtre, cet héritage du théâtre russe, souvent a des résonances sur ceux qui sont le plus extrêmes, quoi, en mettant en scène tout ça.
Oui.
C'est assez dingue.
Dans la culture russe et la culture slave, je pense, les enfants, très tôt, ils sont... on leur inculque la musique, la littérature. Enfin, ils ont une formation très, très poussée, mais très poussée, enfin, comme en Chine, je pense. Hein. Tous les gamins, là, ils savent jouer d'un instrument, ils chantent, ils font du sport, enfin, ils sont très... Et je pense que c'est de par leur histoire aussi, avec tous les régimes un peu totalitaires qu'ils ont eu. C'est une échappatoire aussi, la création. Oui, puis le parcours est ultra complet, en fait, de disciplines artistiques. Enfin, nous, on avait à la fois... des cours d'histoire de l'art étrangère, russe, mais des trucs pratiques, genre du dessin, mais dessin académique, dessin peinture à l'huile, enfin tout type de trucs, maquette, mais maquette, attention, enfin maquette, fallait que ça soit parfait, parce que le prof, à la fin, il montait dessus sur ta maquette, il fallait pas qu'elle s'écrase. Et genre les profs, ils rentrent dans la salle, faut que tu te lèves, enfin tu sais, un peu militaire quoi, tu les salues quoi, enfin... Il y a cette dimension, oui. Et notre prof de scénographie, on ne l'appelait pas professeur, on l'appelait maître, tu vois, master. Et donc, c'est ce truc-là du maître, quoi. C'est pas du tout le même apprentissage qu'en Europe, quoi.
C'est combien de temps, la formation ?
5 ans. Autant que les metteurs en scène, en fait.
Oui, du coup, ça peut te formater, 5 ans, ça te formate
carrément, carrément.
Vite, quoi.
Ben, en plus, je suis arrivée là-bas, j'ai eu mes 19 ans là-bas, donc j'étais... encore jeune quoi, mais heureusement, parce que je me disais dernièrement, là je pourrais pas, en fait je pourrais pas le refaire quoi, c'est, ça serait, j'aurais trop de...
Oui, avec du caractère tu t'aurais pas préparé,
oui,
la formation.
Ouais.
Tu as grandi dans une famille qui travaillait déjà dans le théâtre?
Oui, tout à fait. Ben, mon papa est créateur de bande son, enfin et ma maman était comédienne.
Okay.
Donc, et ma grand-mère ukrainienne était musicienne. Donc, oui, j'ai baigné dedans. Il y a bien un moment au collège où je me suis dit, je vais faire autre chose, je vais faire ingénieur agronome. Mais bon, non, ça m'a rattrapée. Et comme mes parents n'avaient vraiment pas beaucoup de sous, ils ne pouvaient pas trop m'acheter des jouets. Donc, mon père, il était comme archi de formation, architecte. Et il bossait dans des ateliers, il faisait de la régie aussi. Et il m'a appris à bricoler dans son atelier, planter des clous et tout. Et du coup, je faisais mes propres calèches de Barbie, mes petites sénaux. Et avec maman, on faisait de la couture et tout. Donc, et ma grand-mère aussi. Donc c'est un peu... voilà. Des fois, je me dis, en rigolant, ben, en fait, ce que j'adorais faire quand j'avais 6 ans ou 7 ans, ben, je le fais en même temps. Enfin, maintenant, en tant qu'adulte. Et je dis, ben, en fait, c'est trop ça, c'est trop bien. Et de voir ses parents qui adorent, enfin qui ont du plaisir à faire quelque chose, ben finalement ça déteint aussi quoi. Enfin moi ça m'a influencé quoi.
Pour toi ouais c'est un héritage quoi.
Ouais. Et même maintenant, enfin après dans mon parcours professionnel il m'est arrivé plusieurs fois de travailler avec mon père ou ma mère. Parce que mes parents avaient leur compagnie aussi et ils montaient leur petit bins, ils disaient, leur petit spectacle. Donc ça m'est arrivé de faire des costumes pour ma mère ou même des fois de jouer des spectacles avec maman ou avec mon père, mais mon père c'est assez fréquent en fait, même encore maintenant il est à la retraite et on travaille avec des compagnies ensemble quoi.
Donc tu jouais, t'as joué?
Oui, j'ai joué un peu. Maman elle était aussi, elle donnait des cours de théâtre donc elle me briefait un peu quoi, mais c'était plutôt des spectacles pour enfants, quoi. Donc, mais c'était des super souvenirs aussi, quoi. Ouais. Parce que maman, elle écrivait les spectacles, elle jouait dedans, elle mettait en scène. C'était des très bons souvenirs, quoi.
Donc, elle te faisait des rôles enfants
Oui, voilà. Enfin, un peu sur mesure, mais où elle aimait bien reprendre des contes russes. Et... genre le petit poisson d'or ou des choses comme ça, et c'était plus destiné aux enfants, tu vois, mais moi je faisais la petite fille ou enfin tout ça, et on faisait les costumes ensemble, c'était sympa.
Et ça t'a aidé ça plus tard d'avoir eu cette expérience de jeu?
Alors je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais c'est moi maintenant que j'ai un enfant là, je me dis ça donne des armes aussi. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est... Parce que moi, je pense que je suis quelqu'un qui a pas une grande confiance en soi. Et en fait, ça donne confiance.
Et la création de costumes?
Ben voilà, là, c'est le virus que... inoculé ma mère et ma grand-mère quand j'étais gosse, quoi. Qu'on a récupéré la machine à coudre Singer à pédales de mon arrière-grand-mère, enfin, de côté de mon père. Je pense que je vais avoir 5-6 ans et J'étais complètement dingue de ça, quoi. C'était, mais tel point que ma mère, elle devait dire, mais arrête, va te coucher, quoi. Cette machine à coudre, là, magnifique, avec cette dorure et tout. Qui faisait pas de bruit avec la courroie. J'ai encore l'odeur de la courroie, la graisse, là, tout. Magnifique objet.
Et tu fabriquais quoi ?
Des poupées, des habits pour mes Barbies. Ouais. Vu qu'ils n'avaient pas trop de sous, ouais, je me débrouillais tout seul. Quoi. Je faisais mes machins, quoi. Mes bidouilles, quoi. Ouais. Et après, ma mère adorait coudre. Donc, tous les étés, c'était... on lançait des projets couture, donc elle avait une armoire à tissu magnifique. C'est un univers maternel et grand-maternel, quoi, aussi, de tout un monde merveilleux, quoi.
C'est important de se... parce que c'est un métier assez solitaire.
Ah, mais ça me dérange pas, moi. Je peux être même... je pense trop. Je pense que j'ai un côté où je me replie sur moi-même et ermite, quoi, vraiment. Mmh. Des fois, je peux rester des semaines, faire mes trucs. Mais c'est pas bien non plus, quoi.
C'est pour ça qu'on est contente des fois de faire un peu d'atelier à plusieurs.
Oui, oui, c'est ça.
C'est de plus en plus rare, mais...
C'est ça. Moi, j'ai jamais vraiment fait d'atelier, tu vois, comme j'ai pas fait d'école d'habillage ou de couture. Je regrette, d'ailleurs, mais... pour le coup, ça sera trop tard. Donc, j'appréhendais beaucoup. Et avec Eva, on s'est retrouvés l'automne dernier à faire, tu sais, sur le spectacle au Zénith, là, oui. C'est beau, la France, là, je sais pas. Et en fait, il y avait atelier de finalisation des costumes, quoi. Et j'appréhendais beaucoup, et Eva aussi. Et en fait, on a passé des moments merveilleux. Enfin, elle comme moi... parce que c'était des gens bienveillants. Et en fait, finalement, personne dans cet atelier, il y avait quand même une dizaine de personnes, quoi, n'avait réellement fait de... Si, une jeune femme, mais personne n'avait fait d'école de couture, quoi. Il y avait une dame, elle était aux accessoires, mais elle faisait... elle était Céno, Mireille, elle avait sa boîte de costumes, mais elle était canadienne, elle avait pas... Enfin, tous les parcours étaient finalement très hétéroclites, et bienveillant, quoi. Mmh. Et c'était un très très bon moment. Pourtant, on se faisait 8 heures de couture par jour, quoi, à la machine, quoi. Et c'était magique, quoi, c'était trop bien.
Tu parlais d'Eva tout à l'heure, qui a le même parcours que toi,
oui,
qui est scénographe aussi.
Ouais.
Et qui n'a pas poursuivi en scénographie en France. Toi, est-ce que tu as poursuivi ou...
Alors, moi, je poursuis, mais c'est très, très dur. Très, 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 très dur, la scénographie en France. Alors, d'une part, quand t'es une femme. Ensuite, quand tu as fait un cursus qui n'est pas français, quand t'as pas fait Lyon ou le TNS, c'est mort pour toi. Donc, je fais avec des petites compagnies avec qui je m'entends bien, J'ai une amie qui a une compagnie à Aix-sur-Vienne, qui est russe d'ailleurs. Qui me donne un peu ma chance en scéno. Enfin, qui me laisse... Elle a le même parcours que moi, mais en comédienne, metteur en scène. Donc elle connaît un peu ça. Et je fais des petits projets comme ci, comme ça. Tout petit, hein. Mais c'est bien. Mais spontanément, je suis allée vers le costume, en fait. Parce que j'étais pas du tout à l'aise avec le milieu de la scénographie en France. Je manquais de confiance. Et je veux pas me battre, quoi. Les places sont chères. Enfin, quand je suis arrivée en France, j'ai postulé, j'ai contacté plein de scénographes, bien en place et tout. Et la seule réponse que j'ai eue, c'est Oui, je veux bien vous prendre en formation, mais par contre, c'est payant. Je fais payer, je fais des masterclass. Ah ouais, d'accord, super. Bah non, merci en fait. Donc oui, mais j'ai fait un peu de la déco au cinéma.
Ouais.
Avec un groupe de copines. Quand je suis rentrée de Russie, tout de suite j'ai embrayé là-dessus, sur la déco au cinéma, sur du court-métrage pas payé, des trucs. Mais au moins on s'éclatait, quoi. Et après, avec ce groupe de copines, elles ont eu un plan pour faire dans les Ardennes le musée du Père Noël. Donc il y avait 2 mois de boulot. Mais le challenge, c'était que c'était l'ancien musée de la guerre qu'il fallait transformer en musée du Père Noël. Donc 2 mois de boulot en déco, scéno, machin. Et pour faire des heures, je faisais l'utène et j'apprenais à tricoter aux gamins. Mais les gamins, enfin, quand c'était... Il y avait 1500 personnes par jour, quoi. Et tu sais, c'était musée du Père Noël, donc t'avais des stands, des activités, des machins, des trucs, et franchement, j'ai kiffé, quoi. J'avais des aiguilles géantes et je faisais tricoter les gamins, mais par dizaines, quoi. Je leur apprenais à tricoter avec mes aiguilles géantes, ma laine géante, et il y avait une écharpe. C'était l'écharpe du Père Noël, mais l'écharpe, elle faisait 20 mètres déjà, quoi, en tricoté. Et chaque gamin tricotait un peu, quoi. Du coup, il participait à l'écharpe du Père Noël, quoi.
Trop bien.
Ouais. Donc, l'utène. Ouais, ça, tu peux l'ajouter à mon CV. Je fais l'utène du Père Noël. J'avais fait les costumes aussi des gens qui étaient là et tout.
Et le tien.
Et le mien. Ouais, c'était énorme boulot. Mais c'est ce qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier, quoi, en France. C'est une autre discipline, en fait, l'habillage, que j'aime beaucoup parce que tu dois être tellement discret, et le balai des changements rapides, et enfin, dans ce que je m'imagine, en fait, c'est comme une chorégraphie et millimétrée, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que je savais pas avant, enfin, j'ai pas vraiment appris, en fait, à faire de l'habillage, mais je fais de la musique. Et en fait, automatiquement, c'est les tops sonores par rapport à la bande-son. C'est peut-être l'héritage de papa, mais j'ai tout de suite... c'est ce que j'ai trouvé comme astuce, c'est repérer les tops dans la musique, dans la bande-son, pour justement caler les déplacements, caler les changements. Et après, quand tu sais ta partition, entre guillemets, ta partition d'habillage, bah c'est très plaisant parce que tu te laisses porter et tes gestes sont presque mémorisés, comme une chorégraphie, quoi. Et c'est un ballet, quoi. C'était sur Room de James Thierry, là, dernièrement, où c'était très galvanisant, un peu. Il y avait une scène où la chanteuse chantait en live, hein, au plateau, tout en chantant, parce qu'elle était équipée de micro, elle passait à l'arrière, où il y avait le noir complet, et là je devais lui mettre une robe à sequins que Laurette avait fait, à sequins à paillettes, quoi. Robe fourreau avec des pressions.
Pendant qu'elle chantait ?
Dans le noir total. Et donc aucun bruit, rien. Et du coup on avait répété avec elle, je l'avais fait répéter. Et j'avais mis de la peinture phospho sur les pressions. Pour au moins avoir quelque chose, quoi. Et on avait répété justement cette histoire de corps et de où se trouvent les pressions, comment elles se placent, et ça s'était super bien passé. Elle nous avait remercié, enfin, apparemment le changement avait jamais été aussi rapide, et on avait eu les félicitations. Les collègues aussi avaient trouvé des petites astuces comme ça. Oui, parce que en plus ma chanteuse arrivait en costume 3 pièces d'homme, donc elle devait se changer. et
sans, ouais, sans que ça s'entende dans le micro.
Oui. Ouais. Donc c'est un peu un challenge. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans ce métier, c'est que surtout quand tu fais du plateau en habillage, ben c'est des challenges que tu relèves et c'est très gratifiant quand ça se passe bien.
Des fois, ça se passe mal.
Rarement.
Rarement.
Ouais, vraiment rarement. Là où ça peut se passer mal, c'est quand ton comédien il panique. Donc c'est important de le mettre en confiance, quoi. Mais des fois, on n'a pas forcément toujours le temps quand c'est des spectacles qui tournent. Mais c'est quand même important de prendre un petit moment avec eux, bah déjà de se présenter, enfin qu'ils voient qui t'es, parce que de toute façon tu vas être amené à toucher leur corps, donc il y a une proximité que bah ils vont être forcés d'avoir avec toi, donc c'est mieux si ils voient qui t'es, quoi. Donc ouais, l'habillage c'est un métier où t'es amené à avoir des proximités plus ou moins forcées avec les comédiens, les comédiennes, les danseurs. Où tu travailles quand même dans un environnement pas forcément éclairé, que tu dois relever des challenges, être inventive, quoi, inventif et inventive. Enfin, c'est l'habillage du plateau, quoi. Ça, c'est vraiment. Enfin, c'est un peu le haut du panier, quoi. Parce qu'après, il y a toute la partie entretien costume et c'est autre chose, quoi. C'est moins gratifiant. Mais quoique les comédiens et tout, ils sont quand même assez, assez reconnaissants, quoi. Enfin, j'ai jamais eu d'expérience, enfin pas trop, où vraiment c'était un peu des stars. Enfin, si, une fois ou deux, quoi, mais...
Tout n'ira toujours.
Ouais.
La servante, pour toi, c'est quoi ?
Bah, c'est la lampe, justement, la lampe qui veille, quoi, et qui protège pour pas se... s'il y a quelqu'un qui doit passer au plateau, pas qu'il tombe dans la fosse ou pas qu'il se blesse. Mais ça peut être aussi la bieuse qui sert le spectacle, qui est... de service pour aider les comédiens. Ouais, donc c'est pas mal d'avoir trouvé ce titre de spectacle. C'est un peu, on a un peu la même fonction. On est là avant, et on est là après, et on est là quand il n'y a personne. On veille, quoi. Ouais.
Il y a la tradition de la servante en Russie ?
Oui, oui, il y a la tradition de la servante.
Comment ça s'appelle ? Tu sais ?
Bonne question. Et ben, je demanderai aux copains, tiens.
Ouais.
Qui ont encore Facebook. ouais. Je demanderai. Et par contre, c'est intéressant par rapport aux habilleuses russes, c'est pas pareil que les habilleuses françaises. Les habilleuses russes, c'est encore plus cadré et cloisonné que nous, parce que il y a donc à gauche, c'est les hommes. Donc c'est l'éloge des hommes, et à droite c'est l'éloge des femmes, et les habilleuses, il y en a une qui s'occupe que des hommes et l'autre qui s'occupe que des femmes. Donc, et ça se mélange pas, jusque dans les machines à laver, quand tu fais les machines avec les chaussettes des hommes et les chaussettes des femmes, c'est pas mélangé. Ouais, c'est ultra cloisonné, quoi.
C'est quoi ton meilleur souvenir de costumière ou d'habilleuse ?
Wow. Ouais, j'en ai plein. Quand au plateau, tu vois ton travail, enfin en création, en costume, tu vois ton travail et t'es fière de toi, enfin tu te dis, waouh, enfin... C'est magique, enfin, ce que j'ai dessiné, ce que j'ai imaginé, ça vit, quoi. Enfin, c'est... Tiens, tu vois, j'ai les poils. Mais... Ouais, bah, jusqu'à dernièrement, tu vois, enfin... C'était une création un peu facile, entre guillemets. Il n'y avait pas trop de conception, mais avec Bruno, tu vois, de loin si près. avec les lumières de... Parce que c'est important, la lumière aussi, pour les costumes. Ça peut tout flinguer ou ça peut sublimer, quoi. Les lumières de François, elles sont magnifiques, je lui ai dit, mais ça les met bien en valeur. Enfin, c'est trop beau, quoi. Enfin, c'est... Même des fois, t'as des effets qui se passent auxquels t'avais pas pensé. Enfin, t'aurais jamais imaginé que ça crée cette émulsion-là et sa vie, maintenant, sans toi, mais ça vit sa vie, quoi. Dans les danseurs, dans les comédiens. Ouais, c'est un peu une sensation... Je crois pas en Dieu, mais divine, quoi. Enfin, ça vit, quoi. Ça y est.
C'est dingue, quand on vient d'écouter ton parcours. T'es quand même scénographe.
Oui.
Et plein d'autres choses. Et quand tu expliques tout, toutes les compétences que ça requiert... que ce soit de la création costume jusqu'à l'habillage, c'est... Mais on s'en défend peut-être pas assez aussi.
Oui, je pense, mais ce que je te disais au début, moi, je pense que je manque de confiance en moi. Donc, et puis, en fait, j'ai pas envie... Enfin, avec l'âge, j'ai pas envie de m'embêter, pour être poli. J'ai plus envie de m'embêter à travailler avec des gens pas gentils.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire oublier dans un théâtre, de te faire enfermer ou...
À Bobigny, ouais. Ouais. Ouais, ouais, à Bobigny. Heureusement, il y avait les gardiens, mais voilà. Bon. Ouais.
On est celles qui leur parlent le plus, d'ailleurs, eux aussi.
Oui, oui, c'est clair. Et aux femmes de ménage aussi. Oui. Ouais. Mon père aussi, enfin, comme il fait de la création de bande-son aussi, il adore, lui, venir avant tout le monde aussi, à la première heure, pour faire ses balances, pour faire ses trucs. Souvent, dans ses bonnes sons, il y a beaucoup de points de... Enfin, il aime bien que le son soit dans l'espace, tout ça, donc... Et il aime bien venir très, très tôt, quoi. Et on me dit, moi, je connais toutes les femmes de ménage des théâtres, des scènes nationales de France, quoi. Alors souvent, il me dit, bon, je paye le café, tout ça, discute. Enfin, aussi, c'est un moment un peu... d'avoir le plateau rien qu'à soi, quoi. Et le théâtre, en fait. Le théâtre rien qu'à soi. C'est un privilège, quoi.
Un théâtre vide.
Ouais. C'est quelque chose, ça, aussi. Ouais. Toute cette machine-là. Ouais.